Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Délivrez-vous pour ces deux ailes. J'espère qu'elle vous apportera pleine de joie, de belles aventures littéraires. Voilà, j'espère que vous avez passé tous un bel été. Et puis, sans plus attendre, mon invité d'aujourd'hui, vous le connaissez. Mon préambule portera sur un petit peu le résumé de ces deux romans précédents parce que c'est une trilogie, le troisième ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui. Vous l'avez rencontré avec Le Cri chez Ixo, Le Cri où au travers d'un hôpital psychiatrique à Gstaad en Norvège, je vais y arriver, on faisait connaissance avec le patient 488 et en même temps nous faisions également la connaissance de Sarah Geringen et de Christopher Clarence qu'elle rencontre au cours de cette enquête qui va les mener très loin. Et qui va les faire voyager. Au travers de cette enquête, nous allons aller à la rencontre du mystère de cette masse noire et des âmes. Je n'en dis pas plus pour que vous puissiez avoir bien évidemment tout le loisir de le lire. Le second roman, Complot, nous retrouvions également Sarah Geringen et Christopher Clarence qui sont ensemble depuis maintenant un moment. Ils ont acheté une maison sur une île au large d'Oslo. Sarah va être appelée sur une scène de crime peu ordinaire, voire effroyable, sur l'assassinat de la première ministre norvégienne, Catherine Hakkebakke. De là va s'en suivre toute une enquête qui va les emmener bien loin, jusqu'au Liban, où là, des révélations seront faites, trois révélations, au travers de trois femmes. Complot va se terminer sur une situation un peu délicate pour Sarah, puisqu'elle sera emprisonnée en Italie. Et pour ce troisième opus, dirais-je, nous retrouvons donc Sarah Geringen pour ce nouvel ouvrage, L'île du diable aux éditions Ixo. Donc j'ai le plaisir et l'honneur et l'avantage de retrouver Nicolas Beuglé. Bonjour Nicolas Beuglé.
Bonjour Claudine.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour ce nouvel ouvrage, L'île du diable aux éditions Ixo. Donc j'ai fait un résumé, j'ai essayé succinct parce que c'est compliqué hein, avec vos romans, il faut pas en dire trop tout en donnant envie aux gens de le lire. Alors dans L'île du diable, je le disais, on retrouve Sarah Geringen, l'inspectrice ancienne des forces spéciales et Christopher Clarence. Alors, moi, j'ai envie de vous demander comment s'est passée de nouveau la construction de l'île du diable. Parce que dans l'île du diable, il y a plusieurs enquêtes. Il y a l'enquête que va faire Sarah sur la mort de son père. Il y a l'enquête de Christopher. Et on s'aperçoit qu'il y a également Stephen, qui est le patron de Sarah, qui également de son côté fait une enquête. Alors, comment le thème, la genèse de ce livre, dites-nous.
La genèse, c'est d'abord, si je peux me permettre juste de placer le décor, comme ça, oui. Ça vous permettra de mieux comprendre. Mmh. Effectivement, Sarah est en prison à la fin de Complot. Oui. Elle va être libérée, vous verrez comment. Mmh. Le problème, c'est qu'à peine sortie, elle apprend, comme vous le disiez à l'instant, le meurtre de son père. Et elle n'arrive pas à y croire, parce que pour elle, c'est un homme sans histoire, qu'elle connaît pas très bien d'ailleurs, mais bon... Pourquoi il serait assassiné, ça n'a aucun sens. C'est forcément un cambriolage qui a mal tourné. Sauf qu'elle arrive sur la scène de crime. Et là,
le
corps est recouvert d'une poudre blanche. Mmh. Les extrémités des membres sont gangrénées. Là, elle se dit que non, c'est pas un hasard. Il n'a pas été tué comme ça. Et donc, peut-être qu'elle ne connaissait pas du tout son père. Et quand le légiste qui est en charge
Tobias,
de l'examen il découvre une clé dans l'estomac du père. Mmh. Là, Sarah commence à mettre le doigt dans une enquête qui va l'amener vers un secret de famille qui est absolument important. Donc ça c'est effectivement le cœur du roman, mais on vous avait laissé en suspens dans Complot sur ce que Sarah avait peut-être fait de mal à l'égard d'un petit enfant.
Je savais pas trop s'il fallait le dire ou pas. J'étais un petit.
C'est pas grave, on peut le dire, c'est pas gênant parce que vous n'aviez pas la réponse et la réponse sur ce qui s'est passé vraiment est-ce que vraiment.
Et c'est Christopher, c'est Christopher qui enquête sur ça dans L'île du diable.
C'est Christopher qui va enquêter sur elle parce que il va essayer de comprendre si la femme dont il est amoureux et avec laquelle il partage sa vie, au moment où il commence à avoir des vrais doutes malheureusement sur ce qu'elle a pu faire par le passé et est-ce qu'elle a toujours été aussi juste, gentille, on va dire, qu'elle le prétend, ou est-ce qu'il y a eu un moment où elle a des zones d'ombre. Donc ça, il va enquêter sur elle, c'est terrible, parce que il faut se mettre à la place d'un conjoint, n'importe qui le peut l'imaginer, où tout d'un coup on a un doute terrible sur celui avec lequel ou celle avec laquelle on partage notre vie, et on commence à se demander si cette personne est aussi saine qu'on le croyait. Moi, ça c'est quelque chose qui me parle, non pas dans ma vie personnelle, mais c'est une question que je me pose depuis très longtemps.
Peut-on faire confiance Peut-on faire confiance à nos proches?
Oui, la confiance, et puis connaît-on vraiment les gens avec qui on partage notre intimité?
C'est vrai.
Finalement, c'est rien ne les oblige à nous dire tout, et rien ne nous permet de tout savoir. Donc il y a une confiance, comme vous dites, à un moment, et parfois cette confiance peut être mise en péril. Donc moi, ça c'est une des genèses aussi de la narration. C'est cette question qu'on peut se poser et qui est mise en lumière dans le texte, dans le thriller, avec cette enquête sur son épouse. Et forcément, il va douter, il va découvrir des choses qui vont vraiment lui faire très très peur. Et après, effectivement, il y a une autre enquête encore qui est menée par le chef de la police,
Stéphane,
responsable de Stéphane, qui est responsable de Sarah,
qui a toujours beaucoup apprécié Sarah et qui la connaît très bien.
Exactement, avec qui il a travaillé pendant
les forces
très
spéciales,
longtemps, notamment dans les forces spéciales. Exactement, donc ils ont tissé des liens très forts tous les deux, parce qu'ils se sont sauvés la vie mutuellement, ils ont été confrontés à des situations très compliquées et ils ont surmonté énormément d'épreuves. Donc sauf que là, Stéphane lui-même va être mis en difficulté sur quelque chose qui reste mystérieux. Au départ, je peux pas dire quoi, confronté
à des choses
à
terribles.
Une très 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 grosse pression, et qui va le mettre en porte-à-faux à l'égard de personnes qu'il apprécie.
Alors c'est vrai que pour Christopher c'est compliqué, parce que ils se sont rencontrés donc dans l'enquête sur le cri, au travers de Simon, ce petit garçon que Christopher élève, qui est le fils de son frère, de son frère et de sa belle-sœur, qui ont eu un accident de voiture et finalement qui ont été tués. Donc il élève ce fils, donc elle a ce regard aussi sur cet homme finalement courageux, journaliste, qui a pris en charge ce petit garçon, donc lui sur cette femme aussi courageuse, battante. Donc il y a tout ça dans Complot aussi. Ils se suivent mutuellement, ils l'aident, ils s'investissent énormément. Donc c'est vrai que cette enquête sur ce petit garçon, ça le trouble beaucoup, parce qu'il veut pas croire qu'effectivement les choses peuvent tourner mal, et surtout douter négativement à propos de Sarah. Concernant Stéphane, alors sur l'enquête de son père, Sarah n'a pas, dirais-je, elle a le premier plan sans l'avoir, c'est-à-dire qu'en fait Stéphane confie le rôle, on va dire, de l'inspecteur principal à Adrian Cole, en disant voilà, mais vous serez comment dirais-je, finalement le bras droit de Sarah, parce qu'elle ne peut pas être au devant des choses, mais de toute façon vous l'écouterez en toute chose. Finalement, je trouve que ce second plan sans l'être, ça lui donne encore plus de force à Sarah.
Oui, parce que là, c'était compliqué de l'exposer en tant qu'inspectrice principale sur déjà le sort de prison, et deuxièmement c'est sur son propre père. Dans la police, on confie pas les enquêtes aux proches.
Bien
forcément, il y a des trop gros risques que les gens soient plus très sereins et très très nets dans leur tête et risquent de déraper. Donc en revanche, Sarah, vous la connaissez, elle est têtue, elle est déterminée,
obstinée,
Et elle se dit pas une seconde qu'on va donner l'enquête à quelqu'un d'autre sur son père, elle qui en plus une des meilleures inspectrices de Norvège. Donc il trouve effectivement un arrangement, c'est-à-dire que l'enquête est confiée officiellement à un jeune officier qui est assez ouvert et malléable pour que Sarah puisse lui dire écoute, c'est moi qui mène la danse, mais officiellement c'est toi qui t'en occupes. Et forcément lui va devoir apprendre d'elle, parce que elle connaît très bien le métier. Elle va toujours être un peu en retrait, c'est-à-dire qu'elle va l'observer travailler, donc on va savoir ce qu'elle pense aussi, ce qu'elle a dans la tête quand elle va voir par exemple Adrian interroger la mère de Sarah.
Elle est étonnée parce qu'elle le trouve bon.
Voilà, alors il est jeune, il est débutant, mais elle le trouve assez doué pour pouvoir affronter des interrogatoires compliqués, où l'émotion, où il est mis en défaut, où on le critique, etc. Il tient bon, donc elle est assez, au départ, elle a guère de d'un, elle est respectueuse des gens, mais elle a autre chose à faire que de se soucier de savoir s'il est gentil, s'il est bon, s'il travaille bien. Et puis petit à petit, elle va commencer à se dire, mais en fait, ce mec-là,
il est pas mal.
Il est mieux que ce que je pensais. Stéphane m'a peut-être pas confié un mauvais, quoi.
Voilà. C'est vrai. Alors, elle retrouve Christopher, à un moment donné, elle est dans la maison de ses parents où son père a été assassiné. Il vient la voir, ça fait un moment qu'ils ne se sont pas vus ni parlés, puisque quand il était venu la voir en Italie en prison, elle l'avait plus ou moins rejeté parce qu'elle a l'impression que sa vie pour l'instant est un chaos, elle ressent une forme de culpabilité, elle ne sait pas d'où ça vient, elle veut pas les mettre en danger, ni lui, ni Simon. Moi, ce qui m'a fendu le cœur, c'est qu'elle avait tellement envie d'aller vers lui, elle en avait tellement besoin, et malgré tout, elle est montée dans la voiture, elle est partie, ça fait mal, mais en même temps, ça fait partie du jeu. Et je crois que c'est là que peut-être que les choses se déclenchent pour Christopher, pour l'enquête aussi.
Bah, il faut se mettre à la place de Sarah dans son caractère. C'est-à-dire que vous avez été en couple avec quelqu'un, c'était merveilleux, c'était formidable. Vous avez projeté votre vie avec cette personne-là. Et puis il y a eu un gros événement qui a fait que votre couple a dû s'éloigner. En l'occurrence, Sarah est allée en prison. Elle a été soupçonnée d'un meurtre. Elle est soupçonnée encore de cette histoire de
petit garçon,
peut-être de meurtre, de kidnapping d'enfants. Donc tout ça est compliqué. Et elle sait très bien que Christopher, elle aurait qu'un geste à faire pour que tout reparte ensemble. Sauf que si elle repartait, elle repartirait avec les doutes. Elle repartirait avec cette charge. Elle repartirait avec tous ces questionnements, et elle veut pas détruire la vie de Christopher, elle veut pas détruire la vie du petit Simon. Donc elle fait un effort douloureux, vraiment douloureux, de dire à Christopher, non, en fait, je peux pas revenir avec toi, en tout cas pas maintenant. Elle peut pas lui donner de faux espoirs non plus. Donc voilà, elle aurait pu céder même à la facilité, peut-être l'espace de quelques heures, mais non, voilà, c'est une femme qui est pas comme ça. Donc sans le rejeter, elle lui explique que c'est pas possible et qu'elle va falloir qu'elle fasse un bout de chemin, et elle est pas sûre d'arriver au bout du chemin pour comprendre déjà ce qui est arrivé à son père, et puis essayer de, comme vous le disiez tout à l'heure, de lever le l'espèce de mystère qu'il y a autour de cette culpabilité qui est en elle depuis d'ailleurs le cri, en fait, on en parlait déjà.
Oui, oui.
Elle a une culpabilité en elle qu'elle n'arrive pas à comprendre, elle ne sait pas d'où elle vient, et ça lui détruit
sa
vie, en fait,
parce
que ça revient. Voilà. Et donc là, dans L'île du diable, à travers l'enquête qu'elle va faire sur la mort bizarre et très étrange de son père, elle va plonger dans le brouillard de cette culpabilité et découvrir des choses auxquelles elle ne pouvait absolument pas s'attendre.
Tout à fait. Alors justement, dans votre livre, vous mettez le point sur ce que l'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire des événements qui sont ancrés dans notre corps, dans notre esprit, dans notre chair, même dans notre ADN. Et finalement, vous mettez l'accent sur des recherches qui ont été faites, c'est-à-dire sur l'ADN qui peut se modifier au travers du stress, d'événements particuliers que nous n'avons pas forcément vécu, mais que des ancêtres ou des gens avant nous ont vécu. Ça s'est inscrit dans notre ADN, et des expériences ont été faites sur des sujets notamment qui avaient vécu l'Holocauste. Expliquez-nous ça.
C'est une révolution vraiment dans le monde de la science, hein, mais forcément dans notre monde à nous, là, ça change tout. C'est-à-dire que il y a quelques années, on parlait de psychogénéalogie, c'est-à-dire qu'on disait, oui, si des ancêtres ont vécu des traumatismes, ils vous ont transmis ces traumatismes inconsciemment, même si vous-même ne les avez pas vécus. On pouvait donner des exemples de gens qui peut-être avaient des espèces de dépressions qui leur tombaient dessus comme ça régulièrement à des dates précises, et puis on se rendait compte qu'en fait un ancêtre avait vécu, par exemple, s'était suicidé à cette époque-là, il le savait pas. Bon, on disait que c'était peut-être des interprétations un peu folkloriques de la part de psychologues, on n'y croyait pas trop. Et puis, on a découvert l'épigénétique. Alors, ça fait très longtemps qu'on réfléchit à cette question, mais en gros, ça fait une dizaine d'années qu'on met le doigt dessus. Et ça dit quoi? Ça dit que, scientifiquement, on a prouvé que nos ancêtres nous léguaient les traumatismes auxquels ils avaient été exposés à travers des variation de l'expression de nos gènes. Pour faire simple, c'est pas l'ADN qui change, c'est que devant chaque petit gène que l'on a dans notre corps, on a un bouton de volume. Voilà. Mmh. Et on a un gène qui va plus ou moins s'exprimer. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, le gène qui régule le stress, eh ben, il va être plus ou moins capable de gérer notre stress. On va être plus ou moins angoissé parce qu'en fonction de ça, il va produire la cortisol qui fait qu'on va se sentir mieux. Bon, bah, chez certaines personnes, il va y avoir beaucoup de production, chez d'autres, non. Et c'est tous ces petits boutons de volume qui varient au cours de notre vie et qu'on va transmettre à nos enfants et que nos enfants vont transmettre, etc. etc., etc. Mmh. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne de notre entourage, de notre famille, un grand-père, un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère a vécu quelque chose de très violent, une guerre, une famine, une disparition, quelque chose qui a vraiment laissé une cicatrice en lui, il va y avoir forcément des conséquences dans son corps, ces petits volumes vont bouger. Et avant, on pensait que ces petits volumes, ils n'étaient pas transmis en fait aux enfants, on pensait qu'il y avait une espèce de remise à zéro. Et bien en fait non, ces volumes sont transmis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, dans votre corps, vous avez les traces, malgré vous, de traumas qui ont été vécus par vos ancêtres sans que vous soyez absolument pas au courant. Mmh. Et comme vous le disiez, ces expériences, elles ont été faites au départ, par exemple, sur des animaux. Je vais vous donner un exemple qui est très frappant. Sur des souris, on a fait cette expérience très étrange de conditionner des mamans souris à la douleur quand elles sentaient une odeur de cerisier. Tout simplement, c'est-à-dire qu'on leur mettait une odeur de cerise et à ce moment-là, malheureusement, que c'est comme ça que ça se passe dans les expériences, elles prenaient une décharge électrique. Donc, mmh. elles associaient l'odeur de la cerise à la douleur. Plus tard, elles ont eu des bébés. Ces bébés qui n'ont jamais été exposés à l'odeur de la cerise et jamais exposés à la douleur, lorsqu'on leur a fait sentir de la cerise, ils ont eu un réflexe de peur et de terreur.
D'accord.
C'est-à-dire mmh. que la mère, mmh. inconsciemment, malgré elle, dans mmh. son corps, a mmh. transmis cette peur-là. Et de manière plus proche en termes humains, c'est l'université à Jérusalem du Mont Sinaï qui a oui. fait une étude sur les personnes qui avaient été exposées à l'Holocauste.
L'Holocauste, oui.
Et là, les résultats sont assez flagrants. C'est-à-dire qu'ils ont pris 32 personnes juives qui ont été exposées à la guerre ou à la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont étudié notamment leur régulation du stress sur un gène en particulier. Mmh. Ils ont retrouvé exactement la même forme de régulation chez leurs enfants, chez leurs petits-enfants. Mmh. Ils ont pris un groupe test, évidemment, pour vérifier. C'est-à-dire qu'ils ont pris un groupe de personnes juives qui, eux, n'étaient pas en Europe au moment des événements et donc qui ont été exposés de beaucoup moins près mmh. À cette terrible époque de l'Holocauste. Et on a fait l'étude sur l'enfant. On ne retrouve pas du tout, pour le coup, entre les parents et les enfants, les mêmes variations dans le corps. Mmh. Elles sont différentes. Donc, il y a eu cette espèce de preuve un peu empirique, même s'il faudrait reproduire l'expérience, mmh. de cette transmission d'une angoisse d'une génération à l'autre.
Mmh. C'est quand même assez incroyable et assez édifiant. D'où, en fait, le parallèle que vous faites avec Sarah, avec cette culpabilité qu'elle ressent, mais qu'elle ne sait pas d'où ça vient. En fait, on est en plein épigénétique. On va le savoir,
avez,
on le saura.
Avez,
on le saura, voilà.
Vous avez compris la clé.
Tout à fait.
Oui, vous avez compris la clé. Oui.
Voilà, oui, j'ai bien compris la clé. Alors, je sais que tous vos romans, je le dis souvent et je l'ai dit cet été, parce qu'il faut que je vous fasse un aveu, j'ai relu le cri et le complot, mais en audio, vous voyez, comme si voilà, les voix de Christopher et de Sarah me parvenaient et j'ai encore revu des petites choses, des petits détails qu'on ne voit pas forcément à la lecture, là, à l'écouter, donc ça fait rire un peu mon entourage, mais bon, voilà, c'est pas grave.
Et non, c'est bien fait, les voix sont très bonnes.
Oui, les voix sont très bonnes. Et alors, je sais que vous vous êtes toujours basé sur des faits réels, sur des recherches scientifiques, et là, notamment, il y a un événement qui, visiblement, a été complètement gommé de la surface de la Terre et de la mémoire collective, c'est un événement qui s'est passé dans les années 30, et vous avez trouvé cet événement en rangeant la bibliothèque d'amis, un bouquin que vous avez vu, et ça a été le déclenchement finalement de l'île du diable, un petit peu.
Oui, alors c'est vraiment le hasard, c'est-à-dire que j'ai aidé des amis à déménager effectivement leur maison, et puis voilà, une fois que tout était fait, on s'est dit bon, on jette un dernier coup d'œil, je vais aller voir dans le grenier on n'avait rien oublié, et sur des planches d'une vieille bibliothèque qu'ils avaient laissée là, il demeurait un seul bouquin. Et je me suis dit, tiens, bon, je vais quand même regarder. J'ai tourné la couverture, j'ai vu le titre. Je vous donnerai pas le titre, hein, parce que sinon ça vous livre trop d'informations sur le sujet de l'île du diable.
Vous me le direz en rantaine.
J'ai vu le titre. Comment?
Vous me le direz en rantaine.
J'ai vu le titre, j'ai regardé la quatrième de coup, j'ai commencé à parcourir celui-là. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'un événement historique d'une telle ampleur, d'une telle violence, d'une. c'est même plus de la bizarrerie, comme je disais, c'est impensable. Ouais. Et il est vrai qu'on n'en ait pas parlé. Et je me suis dit, bon, forcément, j'ai dû le rater. Et j'ai fait des recherches. Non, il n'y a eu qu'un seul livre décrit sur ce sujet-là, sur cet événement historique qui s'est passé en Russie.
En 1930, dans les années 30, hein, c'est ça ?
Ouais, 1933, en fait. Mmh. Et depuis ce jour-là, je me suis dit qu'il fallait absolument que je raconte quelque chose autour de ça. Et vous savez quoi ? Ce livre-là, là, dont je vous parle, je l'ai trouvé avant d'écrire Le Cri. Mmh. Et donc, en fait, j'avais
avant
en tête...
Le Cri. Avant Le Cri ? Ah oui.
Oui, pendant Le Cri, je savais déjà, en fait, pourquoi Sarah avait cette culpabilité, d'où ça venait, mais c'était pas le moment de le raconter. Donc, j'ai laissé mûrir l'histoire, j'ai laissé mûrir Sarah. Et c'est dans l'île du diable qu'on a toutes les révélations.
Tout à fait. Alors, en parlant de Russie, André Vassili, le père de Sarah, est d'origine russe. Hein, parce que le nom, en fait, de Sarah, c'est Vassili. Mais elle a gardé Geringen. D'ailleurs, Tobias lui pose la question à un moment donné, l'officier avec qui elle travaille, Tobias Kohl. Elle lui dit, parce que je ne veux pas que ma famille connaisse des problèmes suite à mes enquêtes. Donc, j'ai gardé le nom de mon ex-mari. Donc, Geringen. Le nom de son premier mari. Alors, il y a tout un tas de personnages hein, dans l'île du diable. Alors, on retrouve Tobias, hein, le légiste qu'elle a rencontré lors du cri. Et puis, il y a cette jeune technicienne Erika qui est complètement en admiration hein, devant Sarah. Tous les deux sont ravis, hein, Tobias et Erika, de travailler avec elle parce qu'ils ont suivi ses enquêtes. Tobias avait fait un autre métier avant et puis finalement, il s'est mis à être policier. Il y a deux personnages aussi dont on parle un peu plus aussi dans L'île du diable. C'est la mère, Camilla. Ouais. Et Jessica, la sœur aussi de Sarah. On s'aperçoit dans le livre ben, qu'elles vont être interrogées, elles vont subir aussi des examens de leur voix. Enfin voilà, je ne vais pas en dire trop non plus. C'est tous ces personnages aussi qui parasitent autour de Sarah qui sont aussi très intéressants.
Ouais, ce qui m'intéresse, c'est que forcément, quand il y a un élément aussi fort dans une famille que la disparition ou le meurtre de quelqu'un, ça ne peut que exacerber les réactions et révéler les personnalités. Mmh. C'est ça, forcément, qui est intéressant. Révéler les personnalités, révéler aussi, délier les langues. Les gens se disent que bah, c'est plus le moment de garder certains secrets. Et la mère de Sarah, en fait, va être contrainte de parler parce que forcément on va l'interroger, elle est fait partie des suspects au départ de l'enquête, donc elle va être obligée de dire des choses qu'elle n'avait pas dites auparavant et Sarah va l'écouter. Alors sa mère ne sait pas que Sarah l'écoute hein, parce que effectivement comme on l'a dit, Sarah n'est pas directement celle qui fait l'enquête, mais
il y a une glaçante
et elle est terriblement perturbée par la souffrance qui a été celle de sa mère. Elle découvre qu'en fait sa mère n'a jamais été heureuse avec son père, que elle a pris sur elle, que ses deux parents s'entendaient pas bien. Elle le s'en doutait, mais pas au point qu'elle l'imaginait. Et elle va retrouver aussi plus tard un vieux film de famille d'enfance où le seul peut-être où son père était un peu proche de ses enfants et
semblait heureux
des
en tout cas
films qu'elle n'avait pas vus mais voilà elle va pouvoir voir les yeux embués de sa mère qui fait des efforts surhumains pour avoir l'air heureuse dans ce moment où ses enfants ont l'air de s'amuser alors qu'en fait elle souffre et ça c'est des choses qui peuvent peut-être parler à plein de gens dans des familles ces moments où on se rend compte que peut-être le bonheur qui a été le nôtre quand on était enfant, et ben en fait, il s'est fait au prix de certains renoncements de la part de nos parents.
C'est vrai. Alors, au travers de vos romans, vous nous emmenez aussi, vous nous baladez, hein, vous nous promenez au gré de l'enquête, et puis parfois aussi au gré des révélations, dirais-je, de sources historiques. Alors, dans Le Cri, ben, on va se retrouver, par exemple, dans l'île de l'Ascension, dans le complot, on va aller dans le Liban. Là, dans l'île du Diable, c'est la Norvège profonde, hein, les grands arbres, les forêts, et voir un peu plus loin. Il y a aussi un personnage, dirais-je, important dans l'île du Diable. C'est pas un personnage humain, mais c'est un manoir, un magnifique manoir au fin fond de la forêt, dans un petit village reculé à plusieurs heures d'Oslo. C'est aussi un élément important de l'histoire.
Oui, ce sont forcément des lieux qui appellent à l'imaginaire, mais là, pour le coup... il y a une vraie raison pour laquelle Sarah va aller dans ce vieux manoir perdu au fin fond de la forêt. D'ailleurs, les gens qui habitent pas très loin dans le village
sont un peu inquiets, ne savent pas trop qui vit là. Ouais, tout à fait.
Non, puis ils n'aiment pas ça parce que ils ont juste aperçu une silhouette de temps en temps derrière une fenêtre, rien de plus. Ils savent pas qui vit là, pourquoi cette personne se serait seule comme ça dans cette immensité. Perdu au fond de la forêt, tout ça est très suspect, très étrange, et ça l'est. Et quand Sarah va aller là-bas, et commencé à pousser les portes de cette étrange bâtisse, forcément, elle va aller de surprise en surprise.
Bien sûr, oui.
Et découvrir des choses qui vont lui donner des réponses, mais qu'elle aurait peut-être préféré pas savoir.
Pas savoir, forcément, oui. Alors, nous sommes dimanche, votre livre est sorti ce jeudi 19 septembre. Dans quel état d'esprit êtes-vous, Nicolas Beuglé ?
Je suis très impatient. C'est un peu comme d'être à Noël. C'est ce que je disais à mes filles ce matin, qui ont 6 ans et demi et 9 ans et demi.
Ouais.
J'ai l'impression que ce matin, je me suis réveillé un peu comme si, comme j'étais enfant, quand il fallait que j'aille voir ouvrir mes cadeaux.
Ouais.
Donc, je ne sais pas pourquoi, parce que finalement, ça n'a pas vraiment de lien,
ouais.
Parce qu'on ne va rien offrir particulier, parce que c'est moi qui vous offre le livre, entre guillemets.
Mmh.
Donc, mais il y a ce petit côté-là d'événements.
Mmh.
Et puis, c'est mon troisième, donc...
Oui.
Je sais que le cri et complot ont très très bien marché,
oui.
Cet été notamment, donc
oui.
L'île du diable est attendue,
oui.
Donc je suis curieux de voir oui. si l'attente sera à la hauteur de ce qu'on peut imaginer. Donc,
oui.
Donc voilà, et puis c'est pas rien non plus, parce que, comme vous l'avez compris en le lisant, c'est l'accomplissement d'un
oui.
cycle pour
oui.
un personnage,
oui.
en l'occurrence Sarah Gerringen, et je
oui.
tenais absolument à ce que ce soit pas juste l'accomplissement d'un personnage, mais qu'on ait aussi, comme on le disait tout à l'heure, des révélations scientifiques, des
oui.
révélations historiques, beaucoup oui. de rebondissements, du suspense, du mystère. Il y aura tout ça. Et
oui.
en même temps, il y a la fin d'un cycle pour
oui.
un personnage que
oui.
j'envisage pas pour le moment de retrouver tout de suite. Quoi.
Mais bon, on vous retrouve toujours avec plaisir. Alors, je sais que si... Alors, le prochain livre, dans un an, vous avez déjà la thèse, le thème, la trame. Vous avez retrouvé des vieux dossiers poussiéreux dans des cartons.
Alors, deux choses. Un, L'île du diable m'a demandé beaucoup d'énergie pour être écrit. Il est plus viscéral que les deux premiers, il est plus violent en termes de révélations
oui.
psychologiques aussi.
Ça, je confirme. Ça, je confirme. Oui.
Tous les événements historiques qui sont évoqués sont très durs.
Oui.
La dimension scientifique est passionnante, elle est
oui.
très profonde, donc pour bien la raconter, il faut être très attentif. Bon, tout ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc déjà, je me ressource.
Oui.
C'est la première chose. Et puis après... j'ai déjà une petite idée d'un très très gros sujet. C'est ça qui m'intéresse en fait, moi. Ce sont les très gros sujets, mais qu'on voit plus ou qu'on n'a pas vu. Voilà, c'est ça. Donc je pense avoir peut-être sur une bonne piste. Voilà.
D'accord. Donc on vous retrouvera dans un an normalement.
Ah, je ne sais pas. C'est
ouais.
un an. On verra le
un
temps qu'il faut
plus.
Pour bien mûrir les choses. Voilà, parce que là, il faut que je reparte à zéro a priori. Voilà, je ne vais pas repartir avec Sarah. Donc au-delà d'une bonne histoire, il faut aussi. Qu'il y ait des personnages qui existent et qui viennent, qui se créent. Donc, ça prend un peu de temps, ça. Donc, je ne sais pas. On verra peut-être un an et demi. Je ne sais pas encore.
D'accord. En tout cas, après le cri complot qui a reçu un magnifique succès, moi, je suis sûre que l'île du diable sera pareil parce qu'on s'est attaché, vous savez, à vos personnages. Je savais qu'on retrouverait Sarah. J'avais peur de ne pas retrouver Christopher parce que leur histoire, finalement, nous est intimement liée. On suit ça et puis ça nous touche aussi profondément. Et puis toutes ces recherches qui ont été faites, tout ce que vous nous apprenez sur les âmes, les masses noires, et puis dans complot sur cette identification de la masse du masculinisme. Moi, je sais que on en avait parlé, mais mes poils se sont souvent dressés, mes cheveux sur la tête. Ouais, il y a de quoi. Et dans l'île du diable aussi, on apprend beaucoup de choses. Et souvent, vous nous aidez. Alors, c'est ça que je voulais vous demander aussi. Dans le cri et le complot, est-ce que les gens vous ont dit on a un regard différent sur la religion,
ah oui.
sur les choses,
ah oui.
sur l'éternité, sur oui, parce que moi
ah
je sais que
ah
ça
oui,
m'a remis
énormément.
Moi personnellement ça m'a remis beaucoup de choses en question, enfin certaines choses en tout cas. Est-ce que vous avez eu ces
ah
témoignages
oui, oui,
aussi? Oui. Oui.
Non, c'est absolument vrai. C'est-à-dire que j'ai eu énormément de retours de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient douté par rapport à des convictions qu'ils avaient avant de lire le livre,
mmh.
qu'ils n'avaient pas du tout imaginé certaines choses comme ça dans leur vie, qu'en le lisant et en ayant ces révélations, que ce soit dans Complot ou dans le cri, ils m'ont dit mais effectivement ça change tout. j'ai eu énormément de réactions là-dessus, c'est-à-dire qu'on m'a, on m'a parlé effectivement de, du plaisir de lecture, oui, de, du mystère, du suspense et tout, mais beaucoup de gens m'ont dit, voilà, je suis rentré dans votre livre et j'en suis ressorti vraiment différent.
Oui.
Ça m'a laissé une trace, ça m'a fait réfléchir, donc je suis très heureux de ça, parce que moi je l'ai écrit parce que le sujet m'a fait réfléchir et j'avais envie de transmettre ça. Oui, ça change. Et puis il y a beaucoup de gens qui vont après chercher des informations.
Oui.
Et là où ça me touche particulièrement, c'est que j'ai eu beaucoup de jeunes, en fait. Alors, quand je dis jeunes, hein, c'est à partir de 15 ans, parce qu'en dessous de 15 ans, je ne les conseille pas, mes livres, c'est quand même trop violent. Mais qui ont 16, 17 ans et qui ont dévoré ça avec des étoiles dans les yeux quand ils m'en parlaient, en me disant, mais j'aurais pas pensé tout ça, et j'ai appris tellement de choses, plus que j'aurais appris dans mes cours à l'école sur tel ou tel sujet, que ce soit sur l'origine de la misogynie dans Complot, que ce soit sur les expériences qui ont été menées par la CIA
dans les années 60.
Dans le CRI, voilà. Et donc, dans L'île du Diable, j'espère aussi, effectivement, et je pense qu'il y aura aussi ces réactions-là, que ce soit à travers...
Je vous le confirme.
L'épigénétique ou ce qui s'est passé en 1930, là, sur cette île. Voilà, je pense qu'il va y avoir des réactions là-dessus, oui. Je le souhaite.
Oui. En tout cas, moi, ça a été le cas, en tout cas. Et puis, j'ai enquêté. Et puis, j'enjoins à chacun de faire des recherches sur la déesse Asherah. C'est très intéressant. Voilà. Comprendront ceux qui ont lu ou voudront lire Le Complot. L'île du Diable aux éditions Ixio, c'était avec Nicolas Beuglé. Je vous remercie infiniment d'avoir de nouveau accepté d'être à Délivrez-vous pour ces deux ailes. Ça a toujours été un plaisir de vous recevoir. Je suis sûre que ce livre va rencontrer un beau succès. Et puis, je vous dis à une prochaine fois avec une nouvelle aventure.
Merci, plaisir partagé.
Merci Nicolas Beuglé. Merci, au revoir.